FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué « Gosport en grève ». On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme « ras-le-bol de la pression », les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir.
On est de retour, le retour du Canu du vendredi. Et exceptionnellement aujourd'hui, pas de rubrique locale, mais une rubrique rentrée scolaire qui commencera par un petit point sur la grève au collège Barbus à Vaux-en-Velin.
On parlera ensuite en lien avec l'école. On parlera du plan numérique qui est proposé par l'exécutif très souvent pour sauver l'école aux dépens d'autres solutions sans doute un peu plus intelligentes.
Et on restera dans le domaine scolaire, puisque c'est la rubrique scolaire évidemment. On parlera donc de la pollution devant l'école Michel Servet, donc dans les Pentes, et de la mobilisation qui a eu mercredi après-midi.
On passera ensuite à la rubrique nationale pour vous raconter comment s'est passé cet été à Bure dans la Meuse.
Et on va ensuite parler de comment l'islamophobie continue de progresser. On va aller de Nice au Burkini.
On parlera juste après de ce qui s'est passé hier au Havre. Les dockers qui ont mis un peu le zbeul et pourquoi et voilà quoi.
Et puis on reparlera du grand retour de la mobilisation contre la loi travail, avec d'abord un petit micro-trottoir et ensuite un point sur un local du PS qui a à nouveau été saccagé hier à Paris.
Et donc vous avez bien compris que c'est une émission rentrée et bilan de l'été, et donc on parlera également de ce qui s'est passé au début de l'été et puis aussi tout l'été en Turquie.
Voilà, et ensuite un point sur la chasse aux migrants.
Et on finira ce Canu Info par les chiffres de juillet des ventes d'armes de la France qui ont explosé cette année.
Voilà, voilà. Alors, on va commencer donc avec la rentrée scolaire, puisque c'est la thématique de la semaine. Et cette rentrée scolaire, c'est également à Lyon, en tout cas à Vaux-en-Velin, une rentrée sous le signe de la grève au collège Barbus.
Et oui, c'est une rentrée sans rentrée, finalement, qu'il y a eu au collège Barbus à Vaux-en-Velin. Donc, jeudi, puisque le mercredi, les personnels qui ont été réunis lors de la pré-rentrée ont refusé les conditions d'apprentissage imposées à leurs élèves, puisque malgré plusieurs alertes, 4 classes de 5e comptaient 25 élèves, ce qui semblait inacceptable dans un collège de REP+, classé parmi les plus défavorisés. Et donc, aucun élève a été accueilli le jour de la rentrée, jeudi, et une conférence de presse a eu lieu. L'inspection académique avait été prévenue par voie de communiqué dès le mois de juin et puis aussi lors de plusieurs entrevues, puisque les profs et le personnel avaient déjà annoncé dès début juillet, lors d'une information syndicale, qu'ils poseraient un préavis de grève pour la rentrée dans le cas où des effectifs excéderaient 24 élèves par classe. Et donc, dans les faits, les prévisions des personnels sont conformes à leurs craintes, puisque 4 classes de 5e en cette rentrée avaient déjà des effectifs à 25 élèves. À noter aussi qu'il est souvent pas rare que des élèves arrivent et s'inscrivent en retard. Et il y avait aussi d'autres élèves d'autres classes qui n'étaient pas encore répartis, donc ça faisait encore gonfler les effectifs. Voilà, donc les personnels revendiqués pour leur collège, les effectifs ne dépensaient pas 24 élèves par classe sur l'ensemble des groupes et des niveaux, au-delà desquels les conditions d'enseignement ne sont plus acceptables. Et des exemples assez concrets aussi, genre les salles de sciences comptent pas plus que 24 places, et plusieurs salles sont pas dimensionnées pour accueillir de toute façon plus que 24 élèves. Et pareil pour les cours de PS qui nécessitent un nombre important de déplacements en car, et c'est pas possible quand il y a des classes à 25 par exemple. Voilà, donc mercredi ils ont voté la grève à partir de jeudi, le jour officiel de la rentrée des classes, et ils exigeaient que l'inspection académique trouve des solutions pour ramener les effectifs à 24. Voilà, donc ce vendredi, c'est donc le deuxième jour de grève au collège Barbus, donc toujours pas de rentrée pour les élèves. Les personnels ont été reçus en audience par l'inspection académique. Et l'inspecteur d'académie adjoint a refusé de chercher la moindre solution pour permettre aux élèves d'effectuer une rentrée. Et au contraire, il y a de nouveaux élèves qui ont été affectés en 5e, et du coup, ça portait en fait à 6 le nombre de classes supérieures à 25. Voilà. Notez aussi que le collège est déjà en sureffectif, ils sont déjà à 700 élèves au lieu de 6 ans, donc ils voulaient aussi que cette spécificité-là de leur établissement elle soit reconnue. Voilà, donc il est malheureusement assez déplorable que les services de l'inspection académique aient attendu la fin du premier jour de rentrée, plus une journée de grève pour accepter de recevoir les personnels du collège. Et a priori, la personne qu'ils ont rencontrée a voulu aussi un peu leur faire payer leur mobilisation des années passées. Et contrairement à ce que la personne rencontrée affirmait, les personnels ne demandaient donc rien de plus que ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire maintenir les effectifs bloqués à 24 dans toutes les classes. Et puis voilà, du coup, la reconnaissance de la spécificité du suréffectif de leur collège, qui était déjà reconnu par Lyon Métropole et par l'inspection académique, et qui devrait se résorber dans les années à venir avec l'ouverture d'un nouveau collège. Mais dans l'attente de cette solution, il leur paraissait pas disproportionné de limiter les effectifs à 24. Et ils disent que la volonté de blocage de l'inspection académique témoigne d'un profond mépris, d'une indifférence envers les élèves, envers leurs familles, envers le travail des profs, et qui constatent la volonté de l'administration d'en découdre avec des professeurs pour trop revendicatifs, et que la surdité et le mépris d'une administration enfermée dans une logique comptable. Voilà, donc ils ont fait une nouvelle conférence de presse aujourd'hui à midi, mais on n'a malheureusement pas plus d'infos à vous communiquer pour la semaine prochaine, mais a priori c'était bien bloqué de ce qui s'est dit aujourd'hui à l'inspection académique.
Et beaucoup d'élèves par classe, finalement, pour l'inspection académique et le gouvernement, c'est souvent pas très très grave, puisqu'on leur vend aux établissements et on donne, du coup, on prête du coup aux élèves des tablettes et autres ordinateurs portables, et ça sauve l'école.
Oui,
tout à fait, des solutions merveilleuses. En fait, le gouvernement, il se demande encore, alors qu'il surcharge les classes, comment améliorer l'école de la République. Alors, on pourrait proposer des solutions, hein, en formant mieux les enseignants, en limitant le nombre d'élèves par classe, en accompagnant les enfants vers la liberté, l'égalité, la fraternité. Pas du tout. Pour le gouvernement, un seul plan de bataille, le tout numérique. Alors François Hollande l'avait annoncé lors de sa campagne, et depuis, il a sorti 320 millions d'euros nécessaires à des expérimentations vouées à se généraliser. Alors aujourd'hui, les élèves des 600 établissements équipés peuvent mater leurs films et jouer à Candy Crush sur leur tablette offerte par Papa Noël François Hollande. Pendant ce temps, les profs, eux, ils s'échinent à faire l'appel dématérialisé et à lancer les applis indispensables à leur dignité 2.0. Il leur faut aussi remplir le cahier de texte numérique et puis un logiciel qui envoie les résultats des contrôles aux parents avant que l'élève soit rentré chez lui. Ah ah, petit malin, tu ne pourras plus tricher. Ajoutez à cela l'envoi des retards et des absences par SMS, et voilà nos chers enfants dressés comme il se doit aux sociétés de surveillance. L'éducation, ça sert aussi à ça. Alors ne s'embarrassons pas trop d'études sur les effets psychologiques et pédagogiques de l'hyperconnexion des enfants, ados ou encore enseignants. Le gouvernement n'a qu'une obsession, trouver les moyens techniques de cette mise au pas informatique de la jeunesse. Le ministère s'est doté d'une direction numérique à l'école pour atteindre l'objectif de 100% des collèges connectés en 2018 et 100% des enseignants équipés de PC tablettes avec tout un tas de gadgets supposément pédagogiques d'ici 2020. Alors, le responsable de la direction du numérique, un certain Mathieu Gendron, ne doute vraiment de rien. Il déclarait ainsi récemment que, je cite, « Le département d'État du travail aux États-Unis estime dans une étude très sérieuse et documentée, on n'a qu'à le croire sur parole parce qu'il donne quand même aucun élément, qu'aux alentours de 2050, 50% de nos emplois actuels auront été supprimés par l'automatisation, la robotique, le numérique, etc. » ceux qui travailleront en 2050 sont les enfants qui arrivent dans nos écoles. Et c'est pourquoi, dit-il, il faut donc vraiment les préparer de plus en plus à vivre dans des mondes qui seront très différents. Alors les emplois vont disparaître, donc les enseignants aussi, bonne nouvelle. Mais une autre bonne nouvelle, c'est que les industriels seront là pour les remplacer. En novembre 2015, l'éducation nationale offre un contrat de 13 millions d'euros à Microsoft. Les priorités en matière de pédagogie sont devenues très très claires. Alors que des écoles sont insalubres, que des classes sont surchargées et qu'il manque de plus en plus souvent des enseignants devant les élèves, les budgets iront enrichir les gérants de la Silicon Valley. C'est le progrès, on vous dit.
Voilà, voilà. Et on revient à la rentrée, on reste plutôt dans la rentrée, on revient un petit peu à Lyon, puisque mercredi, on va en parler simplement rapidement, mercredi après-midi, enfin plutôt vers 18h, les parents d'élèves et les institutrices de l'école Michel Servet, c'est une école qui est sur les, une école maternelle et primaire qui est sur les pentes de la Croix-Rousse, au-dessus du tunnel de la Croix-Rousse, au-dessus donc du cours d'Herbouville. Les parents d'élèves, donc les institutrices et instituteurs, quelques bambins également étaient devant la mairie centrale, hein, la mairie de Colomb, à hurler, beugler, colon, colon, stop les gaz. Alors de quoi s'agissait-il? En fait, en juin, une étude à la demande donc de ses parents d'élèves qui s'étaient constitués en association, une étude a montré que l'air à proximité et dans la cour de récréation, également dans certaines salles de classe, était très très pollué, notamment hein, des particules dangereuses pour la santé. Et les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant sont plus qu'insignifiantes, voire ridicules. Une cour a quand même été fermée, mais les élèves se retrouvent dans une autre cour qui est finalement pas très très loin. Je crois qu'on a également installé pour la rentrée un petit aspirateur à particules qui vient pomper l'air quelques centaines de mètres plus loin. Bref, des mesures plutôt insignifiantes. Et puis on demandait également de pratiquer dans l'école relativement régulièrement des nettoyages humides afin de chasser ou plutôt faire retomber à terre les méchantes particules. Voilà, donc les parents d'élèves et les professionnels de l'école Michel Servet étaient mercredi soir, donc à 18h devant la mairie, et ils ont demandé des mesures rapides et concrètes. On attend les suites et on vous en parle bientôt dans le Canu Info, bien sûr.
Alors, rentrer encore, quand même, il faut signaler que jeudi prochain, le 8, il y a une grève nationale des enseignants qui se mobilisent contre la loi de réforme du collège.
Canu Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Retour donc sur les luttes de l'été, c'est l'objet de cette émission, hein, émission de rentrée et de bilan de l'été, et on va partir dans le nord-est, à Bure, pour essayer de faire un petit retour sur ce qui s'est passé là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que Bure ? Bure, c'est une petite, toute petite commune de 80 habitants, à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne, deux départements qui se trouvent dans le nord-est de la France, plutôt méconnus et plus que sous-peuplé. Cette petite commune de Bure a donc été cet été au centre de plusieurs victoires, et non des moindres, contre ceux, enfin, ou plutôt victoires pour ceux qui luttent contre la construction d'un gigantesque projet d'enfouissement de déchets nucléaires de très 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 longue durée, très très très, ça veut dire avec plusieurs zéros pour la durée de cette radioactivité, donc des déchets hautement radioactifs. Alors, un petit retour, c'est en fait depuis plus de 20 ans que l'ANDRA, à la fin des années 90, donc l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, c'est par exemple elle aussi, pardon, c'est également elle qui gère d'autres questions relatives à ces déchets radioactifs, notamment à La Hague par exemple. L'ANDRA donc a installé à Bure, dans le nord-est de la France, un laboratoire de recherche visant à valider l'enfouissement de ces déchets dans cette région, comme je vous le disais, très peu peuplée, mais également peu touristique et relativement éloignée des principales métropoles françaises et donc des intérêts économiques qui pourraient rapporter des gros sous. Bref, une région très peu intéressante, pourquoi pas en faire une énorme poubelle nucléaire. Et donc depuis 10 ans, le projet s'est accéléré. Il s'est accéléré à partir de 2006, puisqu'en 2006, l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement, ont validé l'idée d'un stockage profond. Et après donc la période de recherche géologique, qui s'était étalée elle-même pendant 10 ans, entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, s'est donc engagé, au début des années 2010, un débat public assez foireux, où on invitait... On faisait semblant plutôt d'inviter les populations, les rares populations qui vivaient dans la région. Et enfin, de 2015, donc l'année dernière, à 2018, s'est ouvert la période de validation du projet. Ce sont donc les ultimes, en ce moment, les ultimes validations administratives avant les premières étapes de la construction de la fosse à très haute radioactivité. Et cette fosse, on la nomme, vous en avez peut-être entendu parler cet été, CIGEO, pour Centre Industriel de Stockage Géologique. Donc pendant ces quelques décennies, l'ANDRA est devenue un gros propriétaire foncier, donc elle a acheté des terres, et notamment aux agriculteurs, autour de son laboratoire de recherche et sur la zone dans laquelle elle est censée enfouir les sales déchets radioactifs. Et justement, en ce début d'été 2016, le conseil municipal de la petite commune de Mandre, donc Mandre c'est une de ces communes qui est située sur la zone de prospection d'enfouissement, ce conseil municipal donc de cette petite commune, qui est acquis à la cause de l'ANDRA, en tout cas en partie, s'est réuni en catimini à 6h du matin. Début juillet donc. L'objet de cette réunion exceptionnelle, échanger un bois que possède l'ANDRA, un peu plus loin, contre celui appartenant à la commune de Mandre et qui intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup le projet CIGEO. Ce bois, c'est le bois le jus, là aussi vous en avez peut-être entendu parler, puisque la presse a quand même un petit peu couvert ce qui s'est passé à Bure cet été. Bois stratégique donc, comme je vous le disais, pour l'entame rapide des travaux d'enfouissement. Et dès juin, en fait, avant même la décision du conseil municipal, les défrichements dans ce bois le jus avaient commencé. Mais ce n'est pas des petits défrichements hein, où on garde telle espèce un peu invasive, où on coupe une autre espèce un peu invasive. Non, là c'était une coupe blanche, carrément, d'arbres qui étaient parfois pour certains chênes centenaires. Et donc la population qui a vu sa forêt tomber ou commencer à tomber, s'est mobilisée dès la mi-juin. Elle a organisé une manif banquée d'occupation du bois le 19 juin et elle a commencé à saboter les machines qui servaient au défrichage. Voilà. Dans la foulée, une plainte contre l'illégalité des travaux de l'ANDRA, a été déposée. Et puis, début juillet, le bois le jus est vidé par les flics, mais pour un court moment seulement, puisque le 16 juillet, à la mi-juillet, un communiqué des résistants exulte, et on peut lire dans ce communiqué « On a repris la forêt, on ne nous atomisera jamais ». Et qu'est-ce qui s'est passé donc ce 16 juillet, 350 personnes, dont des soutiens venus un peu de toute la France, sont en effet rentrées dans le bois, malgré la présence plutôt violente des vigiles et d'un gendarme mobile. Les libérateurs du bois le Jude répétaient alors, je cite, « Ce qui se joue actuellement en Meuse est le début de quelque chose de plus grand. Malgré la fatigue, le stress et la répression, nous remplissons de jour en jour notre lutte de moments beaux et magique. Nous avons l'amour de la forêt et d'une vie libre en partage. Notre combat et notre joie sont contagieux, comme le plaisir de voir des personnes sortir de la résignation et relever la tête. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses et nous continuerons à l'être car notre détermination est sans faille et notre colère pas réversible. Et la forêt, elle est à qui ? Elle est à nous. ANDRA dégage, résistance et
sabotage.
Affouage aussi. Parce que c'est la forêt. Et du sabotage aussi. Et pourtant, courant juillet, le bois est à nouveau repris. L'ANDRA par l'intermédiaire de sous-traitants, commence à construire un gigantesque mur de béton de plus de 2 mètres de haut. Assez flippant, hein, vous avez peut-être là aussi vu les photos ou les vidéos. Et ce mur est censé donc empêcher toute intervention dans le bois ou toute occupation du bois. Tous les jours, à chaque nouvelle tentative d'incursion des libérateurs de la forêt, des gendarmes mobiles envoient des gaz lacrymogènes sur les tentatives de libération, et les vigiles de l'Andra, plus vénères que jamais après les deux premières occupations, tabassent littéralement plusieurs personnes pour se venger. Donc, comme je vous le disais, des premières occupations. Mais, rebondissement, deuxième rebondissement d'été, coup dur pour l'Andra, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, le 1er août, donne raison aux 8 associations et aux 4 habitants de Mandrembarois qui, dans un référé déposé le 25 juillet, exigeaient l'arrêt des travaux. L'Andra est donc, pour le dire simplement, condamné par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc et les travaux de CIGEO sont stoppés. Ordre est donné également de replanter tout ce qui a été défriché. Pour rappel, 7 hectares de feuillus quand même avaient déjà été détruits. Voilà. Et c'est fort de cette victoire judiciaire que s'organise à la mi-août, donc une dizaine de jours plus tard, la remise en état du bois communal de Mandrembarois, puisqu'on n'a pas attendu que l'Andra s'y mette, puisque pendant près de 3 jours, des centaines de personnes s'attellent à replanter le bois, là où les machines avaient commencé la déforestation en juin. Mais l'exploit de ces 3 jours de la mi-août, c'est surtout la destruction du mur de béton, dont la construction, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait débuté pendant l'été et qui était déjà long de 1 km. Pendant 3 jours, donc, les résistantes et résistants, ceux qui ont libéré le bois, vont s'atteler avec des cordes, des pieds, enfin des... comment ça s'appelle ?
Des
pieux, etc. à faire tomber ce sale mur. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver des superbes images de ces moments de gloire de Bure sur plusieurs sites, notamment le site de Bure lui-même qui s'appelle Plus Bure sera leur chute. Plus Bure sera leur chute sur le site donc VMC. Et puis, cette semaine a été publié un récit des exploits d'août sur lundi matin et vous pouvez également visionner une super vidéo qui a été faite par les docs le doc du réel. Ça dure une vingtaine de minutes et vous aurez donc des images animées plutôt bien montées sur ce qu'on vient de raconter. Et concernant le calendrier à venir, il y a un procès le 6 septembre pour 2 militantes qui ont refusé de donner leur prélèvement ADN. Procès donc qui aura lieu à Bar-le-Duc. Un rendez-vous est fixé à 8h45 devant le tribunal pour les soutenir. Et autrement, plus réjouissant, du 5 au 10 septembre, c'est donc tout bientôt, il y a un chantier collectif qui s'ouvre à l'ancienne gare de Luméville en Ormois. C'est juste à côté de Bure. Et l'ancienne gare, c'est un lieu où se réunissent les résistantes et les résistants. Le but, c'est de construire un peu des lieux pour tenir cet hiver, notamment une cuisine d'hiver isolée, et puis de travailler un petit peu sur le maraîchage. Voilà donc pour les luttes de cet été à Bure. On continue en musique, puisque la forêt a été reprise, une petite musique sur la forêt.
Le grand lion. Allons. Grand lion, je te dis.
C'était pas du tout ça. C'est pas grave.
Réessayer le morceau.
On peut vous réencourager à aller voir les photographies des sites. Vous verrez notamment des gens en train de bronzer sur les restes du mur de l'Andra détruit. Et ils bronzent nus avec des cagoules. On n'imagine pas les traces de bronzage.
C'est vrai que les images sont plutôt pas mal.
Je sais pas si on va retrouver le morceau dans les méandres du numérique.
C'est pas grave, on peut continuer sur le bilan de l'été, parce qu'il y a eu des petites victoires, et puis il y a aussi des choses qui continuent et qui continuent à sentir mauvais, et notamment la progression de l'islamophobie cet été.
Très bien, et bien du coup on enchaîne. Puisque donc effectivement vous avez dû en entendre parler depuis le 28 juillet, une trentaine maintenant municipalités françaises, commençant par Cannes, ont interdit le port du burkini, ce vêtement de plage qui couvre généralement tout le corps ainsi que les cheveux et que certaines femmes musulmanes portent pour se baigner. L'ordonnance de référé du tribunal administratif du 13 août qui valide l'arrêté cannois et ouvre à la prolifération de décrets similaires et passe son argumentaire assez significatif des enjeux, je lis. Dans le contexte d'état d'urgence et des récents attentats islamistes survenus notamment à Nice il y a un mois, le port d'une tenue vestimentaire distinctive, autre que celle d'une tenue habituelle de bain, peut en effet être interprété comme n'étant pas, dans ce contexte, qu'un simple signe de religiosité. Autrement dit, le burkini dissimulerait autre chose et les femmes qui le portent deviennent ainsi porteuses de toute autre chose, une négation des droits des femmes pour le mieux et du terrorisme pour le pire. Certains vêtements auraient alors un lien évident avec ces terroristes qui nous font la guerre. La République serait menacée par un projet de contre-société fondé sur l'asservissement des femmes et il nous faut donc vraiment défendre nos valeurs et nos libertés. Mais pas celles des manifestants ou des grévistes qui réclament de nouveaux droits sociaux, bien sûr. On produit donc une police des habits basée sur le caractère de dangerosité supposée de certains vêtements et sur la thèse de la dissimulation. La conséquence est prévisible. À Nice, à Cannes ou autres, des femmes se font verbaliser et humilier par des policiers municipaux simplement parce qu'elles portent un voile. Commence une chasse à ce qui est caché, masqué, dissimulé. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Après la vague de déferlement raciste et sexiste que cela a provoqué, le 26 août, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet, près de Nice. Ça signifie donc que cette décision pourra faire jurisprudence pour les arrêtés similaires passés dans d'autres communes. Et c'est d'ailleurs le cas là pour Fréjus, Cannes et celui de Nice qui a aussi été suspendu hier. Mais si l'arrêt du Conseil d'État invalidant les arrêtés est une bonne nouvelle, il n'est pas le remède à la maladie de la société française que révèlent les symptômes de cet été. Après la viande halal, le foulard, la burqa, le foulard qui veut mettre une burqa et manger halal, au volant, en terrasse, nous voilà au point de départ, ce que certaines femmes musulmanes portent. On parle donc aujourd'hui, non sans condescendance, de burkini, ce maillot de bain couvrant absolument identique à une combinaison de plongée, mais sur lequel bien des fantasmes sont brodés. En fait, ce débat, c'est que la version estivale d'un autre débat classique, indémodable, celui du foulard. Il paraîtrait donc que le burkini, lui aussi, serait à la fois contraire à la dignité de la femme, une menace pour la laïcité, le symbole d'un combat intégriste, et j'en passe. Pour ce qui est de la dignité des femmes, on attend toujours de voir où est l'indignité dans cette tenue, et ce qui fait qu'un bikini ou un maillot de bain classique incarnerait pas, eux aussi, l'indignité. Mais c'est encore une fois, bien sûr, pour libérer la femme qu'on lui refuse un droit. C'est pour le bon vivre ensemble qu'on veut l'exclure. Et alors on en a entendu et vu défiler des commentateurs, des chroniqueurs, des experts des coutumes et des sociétés, mais surtout des religions des autres, des hommes pour la plupart, promus spécialistes et juges des vestiaires féminins, devenus soudain féministes, mais du féminisme qui sait avec certitude ce qu'est l'émancipation, qui est prêt à l'enseigner à celles qu'ils ne savent pas et si besoin par la force. Ce soi-disant féminisme, blanc, bourgeois, bien-pensant, qui prétend enseigner aux autres comment on devient libre parce qu'ils sont bien trop bêtes pour le savoir. Ce féminisme qui reproduit finalement la même oppression patriarcale et paternaliste qu'il prétend combattre. Comme en 2004 à propos du port du foulard, une pratique aux motivations plurielles, aux significations diverses, est ramenée à une signification unique et surtout à connotation problématique. Et il s'agit bien là d'une démarche essentialiste. Il s'agit aussi simplement de la stigmatisation des musulmans réels et supposés et d'une islamophobie décomplexée. On a pu entendre Nadine Morano déclarer à Europe 1 que, je cite encore, « les islamistes, tels que ces femmes voilées intégralement sur le territoire national, sont comparables avec les nazis ». Rien que ça. Et puis il s'agit aussi d'un appel à la soumission et au renoncement de ses droits. Parce que rappelons que l'injonction à l'invisibilité pour une catégorie de citoyens, c'est plutôt synonyme de domination. Donc il faut dire qu'il s'agit de racisme, que c'est un racisme d'État, et il faut dire qu'à tout ça, ça ajoute une bonne quantité de colonialisme. Rappelons-nous aussi qu'on est en phase de préparation des élections présidentielles, qu'on peut aisément relier l'affaire du burkini à la question de l'identité nationale en danger, qu'il faudrait protéger des ennemis de l'intérieur, et qui, de surcroît, cet été, serait devenu maître de l'art de se dissimuler. On sent encore un peu plus l'air d'un état d'urgence quasi permanent pointer son nez. Aujourd'hui, il est urgent de comprendre que tout ce remue-ménage ne profite au final qu'à faire la guerre, qu'une fois de plus la guerre, elle vise le corps des femmes, objet du voyeurisme collectif et d'un débat dont elles sont encore largement exclues. Il faut aussi dire qu'il n'y a pas à choisir entre antiracisme et antisexisme, parce que ces deux batailles, elles nous appartiennent.
Voilà, très bien. Alors du coup, le titre promis tout à l'heure, on vous le passe maintenant.
T'as retrouvé le titre.
Retrouvé. C'est bien ça. couleur glaciale qui s'élance, la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là assourdi, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti et fait bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé, situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue.
Alors, nous voilà de retour pour faire un petit point sur les actualités de la loi travail. On va commencer par ce qui s'est passé au Havre dans la semaine, puisque mercredi dans la matinée, deux salariés du port ont été interpellés par des policiers parisiens pour violence en réunion qui aurait été commise lors de la manifestation contre la loi travail du 14 juin à Paris. Et donc, dès que la nouvelle de l'interpellation a été connue, les dockers et les ouvriers portuaires ont complètement cessé de travailler, stoppant de facto l'activité du port. Les porte-conteneurs déjà dans le port ont cessé d'être chargés et déchargés. Ceux qui arrivaient ont été détournés vers d'autres ports. La liaison matinale du ferry Le Havre-Portsmouth a été supprimée. Et en plus des arrêts de travail, des dockers ont fait brûler des pneus en différents endroits de la ville, notamment devant le siège du grand port maritime du Havre. Donc les deux dockers interpellés le matin ont finalement été relâchés vers 19h15 après toute une journée de garde à vue à Paris et le mouvement de blocage a été suspendu dans la soirée. A priori, donc, les deux dockers comparaîtront le 25 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris, un pour violence contre un agent des forces de l'ordre et l'autre pour jet de projectiles. Donc ces interpellations ont été vécues par la CGT, qui est le syndicat unique des dockers, comme une grande provocation survenant le jour de la venue du secrétaire général, Philippe Martinez, dans la cité portuaire. Ce dernier a annoncé « Ce n'est pas un hasard, je pense, si mes camarades ont été interpellés ce matin alors que tout le monde savait qu'il y avait une assemblée générale de rentrée de l'Union départementale de Seine-Maritime et que j'y participais ». Voilà, donc affaire à suivre pour la comparution le 25 novembre. Et puis aussi parce que de nouvelles actions de blocage du port du Havre ont été décidées lors du meeting de l'Union locale et confirmées lors de cette assemblée générale mercredi. Voilà, donc on vous tiendra bien évidemment informés.
Donc maintenant, là, toujours dans les suites de la loi travail du mouvement social de l'année dernière, qui va peut-être recommencer bientôt, on va écouter deux courtes interviews de personnes croisées dans la rue tout à l'heure. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez 5 minutes ?
Pas trop.
Pour la radio, c'est pour Radio Canu, une radio associative.
Ouais, je connais.
Vous travaillez ?
Ouais, je travaille, ouais. Ouais. Et là, c'est.
Juste 2 secondes, quoi. Juste 2-3
dix. Ouais, parce que j'ai 10 minutes de pause.
Ouais.
Bah, vas-y, dis-moi, je t'ai.
Non, mais c'est parce qu'en fait, on est intéressé par savoir ce que les gens pensent du mouvement de l'année dernière, le mouvement social.
Ouais.
Je sais pas si vous l'avez suivi ou. Ce que vous en pensez, là, le mouvement de la loi de travail qui s'est éternisé sur plusieurs mois.
D'accord.
Donc, je sais pas si ce que vous en pensez, ce que vous en avez parti.
J'ai pas trop écouté quoi cette loi. Mais bon, je pense que c'est quoi tes patronats quoi, toujours quoi. Je vous arrange beaucoup les patrons quoi.
Toujours.
Il a fait 11 milliards de cadeaux aux patrons. Soi-disant, ils allaient employer des gens, ils ont rien fait, au contraire. Ils ont fait que licencier. Voilà quoi. Et la loi de travail, ouais, c'est pour favoriser les patrons. Voilà. De toute façon, ils cherchent tous à nous payer au SMIC. Hein. Ils cherchent tous à nous payer au même niveau.
À précariser.
Voilà, précariser les gens.
Et ouais, vous avez participé un peu au mouvement dans des manifestations ou autres ?
Non, je bossais.
Pas eu l'occasion.
Ouais, je bossais.
C'est pas forcément facile pour tout le monde.
Ouais. Et ouais, c'est dur. Hein. Ouais.
Parce que là ça commence, ça va peut-être reprendre. Là, il y a déjà deux appels à la grève.
Je sais pas,
vous y croyez un peu que ça reprendra ?
Moi, le problème, moi, je suis en privé, en sous-traitance. Je suis en sous-traitance et je suis au chômage en vrai, c'est des CDD.
Ok, vous êtes précaire en fait.
Voilà, voilà, je suis au chômage.
Pas titulaire.
Je touche la SSP, là.
Ouais.
500 euros par mois. Là.
D'accord.
Ouais.
Bon, espérons que ça reprenne.
Franchement, Roland il nous a bien eu, quoi. Ouais, il est plutôt de droite. Ah ouais, il nous a bien trahi, ouais. Il est de droite plutôt, hein. Que de gauche, hein, ouais. Il a tout fait pour les patrons, il leur a fait des cadeaux. Voilà, et nous on se retrouve dans la merde. Et plus qu'il est là, il y a plus de licenciements. À croire que Sarkozy faisait plus de social que lui. Je te jure. Mais ouais.
Bon, bah, je vous remercie, monsieur.
De rien.
Passez une bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu as 5 minutes pour une radio associative, j'aurais des questions à te poser.
Oui.
Si ça t'intéresse. En fait, on cherche à savoir ce que les gens pensent un peu du mouvement de l'année dernière, là, le mouvement contre la loi de travail.
Ouais.
Et ce qu'ils pensent de ce que ça pourrait donner, la reprise du mouvement, parce qu'il y a déjà deux appels à la grève pour le 8 et le 15 septembre, le 14 septembre. Donc, je sais pas, toi, t'en as pensé quoi, là, si...
Moi, je viens d'Aix-en-Provence, donc j'ai fait les Nuits Debout à Aix-en-Provence. Ouais. Et c'est vrai que c'était un mouvement qui était assez beau à voir, parce qu'à Aix, il y avait plein de scènes ouvertes, du coup, avec des open mic, des gens qui... Jean Lambda qui se mettait à faire des discours qui étaient assez intéressants. Et moi je pense que ça serait une bonne chose que ça reprenne parce que le 49-3, moi j'ai pas...
Les 3 49-3.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi c'est la définition qu'on n'est pas en démocratie. Et du coup franchement je pense que ça serait bien que ça reprenne. Peu importe l'issue, quoi qu'il arrive, au moins ça montre qu'on est là et qu'il y a quelque chose à faire. Quoi.
D'accord, et t'imagines comment ça peut reprendre ? Il y a déjà un appel à bloquer les lycées, là le 14.
Ouais.
Et à part ça, toi, tu penses que
les
gens sont prêts à suivre et toi, tu redescendrais dans la rue s'il y a un appel.
Bien sûr.
Le mardi prochain, il y a déjà un appel là, d'intersyndicale enseignante.
D'accord.
Contre la réforme du collège.
Moi, je viens d'arriver à Lyon, donc je suis pas trop au courant,
mais le 14, on descend dans la rue.
Si pour descendre dans la rue, je descendrai.
C'est bon présage. Bon, bah, je te remercie. Hein.
Bon courage à vous.
Bonne fin de journée, salut.
Alors, autre petite brève, puisqu'il a déjà plusieurs fois été victime d'actes de vandalisme durant ces derniers mois, les bureaux de la Fédération PS de Paris, situés dans le 11e, ont à nouveau été pris pour cible jeudi, donc hier, en marge d'un rassemblement contre la loi travail. Et selon le Parisien, les faits auraient été commis donc hier vers 15h30 par, je cite, un groupuscule de plusieurs dizaines de militants d'extrême gauche munis de barres de fer.
Ça fait peur.
Oui, et c'est alors encore ajouté dans un communiqué par M. Cambadélis, le premier secrétaire du parti, qui a évoqué une action concertée d'une cinquantaine de personnes armées de barres de fer, décrivant des locaux saccagés, des salariés menacés. Et il ajoute, il n'y a donc pas de limite chez ces groupuscules d'ultra-gauche qui, depuis des mois, cassent, saccagent, détruisent les locaux du Parti Socialiste. Et oui, en effet, plusieurs permanents socialistes ont déjà fait l'objet de dégradations un peu partout en France ces derniers mois. Depuis le début de l'année, près d'une trentaine de fédérations ont ainsi essuyé des actes de vandalisme, mêlant des tags, des saccages et autres. Mais pour cette affaire-là à Paris hier, on peut sur Twitter en fait, voir une vidéo qui montre des jeunes renverser une benne à ordures devant le bâtiment, briser une vitre, mais aucune image des barres de fer mentionnées par le premier secrétaire. Donc, en fait, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'une enquête est en cours. On sait qu'il y a eu des interpellations. Mais voilà, on n'en sait pas plus. On trouve peu d'infos. Et personne ne veut trop donner d'infos sur ce qui s'est finalement vraiment passé.
Une politique néolibérale et sécuritaire, hein, c'est ça ce qui se passe vraiment mené par les gens du Parti
Socialiste. C'est qu'ils n'ont pas l'air de comprendre pourquoi tout le monde les déteste.
On n'aura pas notre petit générique international.
International.
Et puisqu'on va enchaîner sur cette rubrique-là. Donc voilà, bon bah tant pis.
Donc l'international, toujours pour faire le bilan de l'été, l'international cet été c'était évidemment partout, mais c'était particulièrement deux, trois trucs un peu marquants, et notamment ce qui s'est passé en Turquie. Alors vous en avez forcément entendu parler, le 16 juillet a eu lieu une tentative de coup d'État en Turquie. Alors elle a échoué et on ne sait pas vraiment qui sont les véritables auteurs. Et surtout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le principal impact visible est surtout la manière dont Recep Tayyip Erdogan, donc le président turc, l'instrumentalise pour renforcer son pouvoir. Donc un pouvoir qu'il exerce de manière de plus en plus autoritaire, ça fait déjà quelques années que ça dégénère, mais c'est de pire en pire. Et la Turquie ressemble de plus en plus à une dictature. Alors, s'il semble a priori logique de se réjouir du fait que les généraux à l'origine de la tentative de putsch n'aient pas imposé un régime militaire au peuple turc, il y a néanmoins de quoi s'inquiéter sérieusement sur la tournure que prennent les choses en Turquie. Alors, le coup d'État n'était pas encore empêché que le président turc désignait déjà comme responsable Fethullah Gülen. Donc, Fethullah Gülen, c'est un imam en exil volontaire aux États-Unis qui a très longtemps été son meilleur allié et les disciples de Fethullah Gülen. Alors si la volonté de Gülen de faire tomber Erdogan est manifeste, ne fait aucun doute, nombre d'observateurs considèrent qu'il n'a absolument pas le pouvoir nécessaire ou l'influence suffisante pour être réellement responsable de ce coup d'État. D'une part parce que ses proches au sein de l'armée et des services d'État ont pour l'essentiel été évincés lors des purges organisées depuis 2013, purges on va en reparler aujourd'hui, et puis 2013 c'était la fin des relations cordiales entre Gülen et Erdogan puisque Gülen a révélé les mécanismes de corruption dont bénéficiaient Erdogan et sa famille. D'autre part, la deuxième raison pour laquelle il est peu probable que ce soit Gülen qui soit à l'origine, les généraux impliqués dans le coup d'État raté n'ont pas des profils de gülenistes, donc les disciples de Gülen, mais sont plus classiquement des kémalistes, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans la lignée d'Atatürk. Plutôt laïcs, qui sont en fait opposés depuis longtemps, en fait, depuis son accession au pouvoir, à la politique ouvertement islamiste d'Erdogan. Alors on n'en sait pas beaucoup plus sur les auteurs de la tentative de putsch, mais Erdogan n'a pas attendu d'avoir des preuves pour se saisir de l'occasion pour faire de grosses purges consistant à virer toutes celles et ceux qui ressemblent de près ou de loin, ou voire même de très loin, à des opposants politiques. Alors des dizaines de milliers de personnes sont concernées depuis la mi-juillet par ces purges. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Au moins 60 000 personnes ont été virées ou suspendues des administrations publiques dans lesquelles elles bossaient. 43 000 professeurs, la moitié dans le public et l'autre dans le privé, ont été suspendus. La quasi-totalité des doyens des universités ont été suspendus, comme un grand nombre de chercheurs de ces universités. Près de 20 000 gardes à vue ont eu lieu, au moins 10 000 personnes ont été emprisonnées. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui va être chargé de les juger, puisque Erdogan a aussi fait exclure 1 200 magistrats du système judiciaire turc. Puis du côté médiatique, c'est aussi l'hécatombe avec la fermeture par décret de 45 journaux. Alors pour donner une petite idée, c'est l'équivalent de la totalité des titres de presse régionaux en France. 23 radios, 16 chaînes de télévision ont aussi été fermées, ainsi que 3 agences de presse et 15 magazines. Soit au total pas moins de 102 médias d'opposition qui ont tout simplement disparu de la circulation sur décret de M. Erdogan. Alors évidemment, les pays occidentaux et particulièrement la France et l'Allemagne ont pris de grandes positions morales mais se sont contentés finalement de réagir mollement en condamnant les agissements d'Erdogan sur la forme. En gros, le message est le suivant, hein. La Turquie peut bien réprimer massivement sa population, l'essentiel c'est qu'elle respecte ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne pour réduire le nombre de migrants qui affluent en Europe. Alors ces engagements, hein, on a entendu parler pas mal l'année dernière, ils impliquent notamment que pour chaque Syrien passant la frontière turque vers l'Europe, un autre doit faire le chemin inverse vers la Turquie, un pays très sympathique, tout juste à côté de la Syrie, et aussi de se battre, de faire absolument tout ce qu'elle peut faire pour éviter l'ouverture de nouvelles routes migratoires. Alors tout juste, les responsables européens se sont contentés de signifier à Erdogan qu'une réintroduction de la peine de mort, puisqu'il l'a évoqué au moment des purges en disant qu'il allait probablement rétablir la peine de mort pour faire vraiment le ménage, remettrait en cause le processus d'adhésion de l'Union européenne, dans lequel la Turquie est embarquée depuis assez longtemps. Ce processus étant déjà largement dans l'impasse, on peut douter des effets de la menace sur la politique interne turque. Alors sur le plan diplomatique, la Turquie s'est été progressivement rapprochée de la Russie, les dirigeants des deux pays ayant en commun leur autoritarisme et une hostilité déclarée envers les Kurdes qui se battent en Syrie contre l'État islamique. Alors Vladimir Poutine, lui, les combat les Kurdes parce qu'il s'oppose à son allié, hein, le dictateur syrien Bachar el-Assad, tandis que Recep Tayyip Erdogan, le président turc, amplifie lui de plus en plus la répression envers ceux qui en Turquie sont persécutés de longue date, à la fois car ils sont des opposants politiques et surtout parce qu'ils sont une minorité considérée comme indésirable depuis très longtemps. Alors, débarrassé, notamment grâce aux purges de l'été, des dernières résistances de l'armée turque à l'agression systématique des Kurdes, Erdogan a désormais toute la latitude pour les réprimer violemment, dans et en dehors du territoire turc. Ces dernières semaines, l'armée turque a multiplié les bombardements sur les positions en Syrie du PKK, donc le parti des Kurdes, adaptant sur le terrain les propos d'Erdogan qui définit le combat contre le terrorisme comme étant à la fois celui contre Daesh et contre les Kurdes qui combattent Daesh sur le terrain. Le monde va bien.
Et oui, le monde va bien et on va enchaîner parce que le monde va bien et le monde va très bien pour les migrants. Donc c'est toujours les plus faibles qui trinquent, les migrants sont en première ligne et nous assistons à une sorte de guerre quotidienne et presque invisible qui fait des centaines de morts et met des enfants à la rue. Cet été, les expulsions, les noyades dans la Méditerranée se sont succédées à un rythme particulièrement violent. Donc on va vous faire un retour sur ces dernières semaines.
Et on rappellera juste, excuse-moi, que l'été dernier, c'était quand même le macabre buzz sur les migrants. Et cette année, on n'en a quasiment pas entendu parler.
C'est-à-dire que les propos pétinistes et islamophobes ont tenu le haut du pavé.
Alors donc, on va partir de Paris, où le harcèlement policier contre les réfugiés continue à un rythme effréné, même si effectivement, on n'en parle pas assez. Du coup, on nous a répété jusqu'à l'écœurement que les forces de l'ordre étaient épuisées par les dispositifs antiterroristes. Et pourtant, le gouvernement socialiste n'hésite pas à utiliser des centaines de policiers au quotidien, uniquement pour chasser les migrants qui campent dans la rue. Depuis le mois de juillet, quasiment plus un jour ne passe sans qu'une intervention de police ait lieu aux abords du métro Jaurès, pouvait-on ainsi lire dans un hebdomadaire. En plein été, une gigantesque opération policière avait démantelé un camp de fortune rassemblant 2500 personnes dans Paris, détruisant les tentes et éparpillant les migrants. Depuis, c'est une logique de harcèlement qui s'impose. Contrôle, gaz, coups, charges, arrestations. La police a même nassé une manifestation de soutien aux migrants le 6 août. En plus de faire la chasse aux migrants, on franchit un cap dans la criminalisation de la solidarité. C'est très grave, expliquait un des organisateurs en sortant de garde à vue.
À Calais, les morts s'amoncellent en silence. Au point de passage entre la France et l'Angleterre, les drames perdurent depuis des mois. Depuis l'automne dernier, des centaines de CRS sont positionnés autour du camp où résident des milliers d'exilés dans des conditions effroyables et gazent à échéance régulière les habitations. En juillet, 4 exilés sont morts aux portes de l'Angleterre, dont une érythréenne, excusez-moi, de 17 ans, percutée par un camion sur la rocade portuaire. Une vie volée dans l'indifférence générale. 37 réfugiés sont morts à Calais depuis 2015. En août, la préfecture a tout simplement décidé de fermer les boutiques du bidonville qui vendaient des produits de première nécessité. La police est allée jusqu'à voler les marchandises, notamment alimentaires, pour disperser totalement ceux qui s'obstinent à fuir la guerre ou la pauvreté.
À Vintimille, donc, les réfugiés tentent toujours de passer la frontière. Donc, autre frontière française, celle qui sépare cette fois la France et l'Italie à Vintimille, et toujours le même type de scène. Le 4 août, des centaines de réfugiés cantonnés dans un camp en Italie essaient de passer en France. Certains tentent une traversée à la nage et débordent le dispositif policier. En réponse, la répression est forte. Une chasse à l'homme mène à l'arrestation et à l'enfermement de 144 exilés. Ici encore, les militants apportant leur soutien aux réfugiés sont arrêtés et les journalistes sont éloignés.
Et on va aller en Grèce où la gauche expulse. À Thessalonique, au nord de la Grèce, on peut observer la continuité des politiques européennes. Trois bâtiments occupés, notamment pour héberger des familles d'exilés, ont été expulsés par la police. Fin juillet, le gouvernement de Tsipras a décidé d'évacuer les lieux et arrêter les militants qui les occupaient. Les migrants, quant à eux, sont jetés à la rue ou concentrés dans des camps indignes. Certains de ces squats étaient des lieux d'organisation et de solidarité importants depuis des années en Grèce et avaient résisté au gouvernement précédent, notamment de droite.
C'est donc la gauche radicale qui choisit d'écraser les espaces d'autogestion, d'auto-organisation, et qui réprime les solidarités bien plus durement que la droite. En réponse, une quinzaine de locaux de Syriza ont été attaqués, et des migrants ont entamé une grève de la faim dans les camps de l'île de Lesbos, premier des fameux hotspots de l'Union européenne à avoir ouvert pour empêcher ceux-ci de rejoindre les pays plus à l'ouest.
Et c'est l'autre côté d'une même médaille, puisque pendant ce temps-là, les ventes d'armes ne cessent d'augmenter, faisant prospérer toujours un peu plus nos sales armuriers capitalistes. Et les chiffres sont tombés pour la France cet été. 2014 avait été déjà une année très prospère pour les industriels de la défense. Eh bien, 2015 bat tous les records, a battu tous les records, avec 15 milliards d'euros engrangés uniquement pour les armuriers français. Si on fait un petit peu le lien, si on met en perspective avec les chiffres de 2010, il y a ne serait-ce que 5 ans, les commandes annuelles d'armement français ont été multipliées par 3 entre 2010 et 2015, plaçant la France parmi les 4 premiers pays vendeurs d'armes dans le monde, très loin bien sûr derrière les États-Unis et la Russie, et à peu près à égalité avec la Chine et l'Allemagne. Et alors, où est-ce que les Français et les autres vendent aujourd'hui le plus ? Bien évidemment, ils vendent le plus là où il y a la guerre, donc d'abord au Moyen-Orient, mais aussi en Asie, où les pays qui sont souvent sous tension, pour des raisons géopolitiques ou économiques, ou les deux à la fois, eh bien, s'arment pour faire un petit peu peur aux voisins. Alors, au Moyen-Orient, la France a notamment récolté des contrats importants en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'au Qatar. Et c'est évidemment, on en a entendu parler, puisqu'il y a des promesses d'achat de Rafale en Inde, que la France fait ses plus grosses ventes pour l'Asie. Voilà, alors Dassault, l'avionneur français, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisque depuis le début de l'année, il engrange, comme je venais de vous le dire, des commandes de Rafale. Il y a bien sûr donc les deux contrats signés, l'un avec l'Égypte, là aussi on en avait déjà parlé au Canu Info, qui d'ailleurs prend aussi une frégate pour l'occasion, et puis un autre contrat de Rafale avec le Qatar. Un escadron chacun, soit 24 appareils pour l'Égypte et 24 pour le Qatar. Autre contrat donc a priori avec l'Inde qui s'engage au moins sur 36 avions. Et puis les Indiens sous-entendent qu'ils pourraient en prendre jusqu'à une centaine. Voilà, alors pendant très longtemps ça a été un petit peu le produit ridicule de Dassault, puisqu'il n'arrivait pas à en vendre. Et pourquoi maintenant il en vend un petit peu plus ? Eh bien, selon une chercheuse qui s'appelle Lucie Béraud-Sudreau, la guerre en Libye aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup servi le Rafale, puisque désormais les Français peuvent utiliser des jolis PowerPoint où ils montrent les performances en direct sur le terrain du Rafale. C'est ce que d'autres appellent la preuve par le combat. Voilà, bon bref, rien de mieux qu'une bonne guerre pour vendre des armes. Donc, Voilà pour notre rubrique internationale. Et donc, on peut peut-être, oui, passer
eh ben, à... Ouais, à l'agenda.
À l'agenda, ouais,
c'est l'agenda. L'agenda, l'agenda. On n'a pas le jingle, comme d'habitude. Oui. Mais bon, on a quelques minutes pour parler de ce qui va se passer les jours à venir. Donc, en partant de ce soir, c'était il y a une heure. Non, ça a commencé il y a une heure, mais vous pouvez toujours y aller. Parce que c'est encore en cours, c'est le concert de rentrée à la Griffe. Donc ça commence à 19h. C'est l'Amérique latine poético-sociale en concert. Donc l'adresse, c'est le 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e. Avec Mélissa Lefili, chanteuse, auteure-compositrice, guitariste Rodrigo Leviman et la chanteuse uruguayenne Maria Noël. Ensuite, ce week-end à Berlin, c'est un peu loin, mais ça vaut le coup d'y aller. rassemblement d'un week-end appelé par le mouvement Blockupy. Donc le moment phare, c'était aujourd'hui, c'est le blocage du ministère du Travail. Mais demain et après-demain, il y aura quand même des manifestations contre le racisme, contre le capitalisme, contre les politiques d'austérité. Donc rendez-vous à ne pas louper si vous avez des réductions en avion. Ensuite, je rappelle, mais c'était encore tout l'été, mais tous les lundis, et donc lundi prochain, le 5 septembre également, il y a toujours une permanence juridique de soutien aux sans-papiers, du coup dans les locaux de la Lutine 91 rue Montesquieu, dans le 7e. Donc c'est tous les lundis de 18h30 à 20h, une permanence qui est accessible à toutes et à tous, dans la mesure des capacités d'accueil et des gestions de dossiers. Donc allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, une semaine à venir, plein d'événements politiques. Il y a du coup le 8 septembre une grève nationale du secteur de l'éducation et en même temps une grève du secteur médico-social, donc appelée par plusieurs syndicats. Du coup, chaque secteur a ses revendications spécifiques. On rappelle que quand même, au fond, il y a une revendication, il y a une lutte contre la détériorisation des conditions de travail et bien en lien avec la loi travail et les politiques de gestion managériale de tout ce qui est social et éducatif. Et enfin, on rappelle que le 15 septembre, c'est une journée de mobilisation interprofessionnelle contre la loi travail et son monde. Donc, c'est une journée qui a été appelée par le mouvement Interlutte Indépendant. À Paris, par plein d'organisations syndicales et pas syndicales, donc pour en citer certaines, la CGT, FE, FSU, Solidaire, UNEF, UNL, FIDL, FIDL. Et donc, qui donne rendez-vous à l'ensemble des salariés privés d'emploi, étudiants, étudiantes, lycéens et lycéennes retraités pour une journée d'action et d'initiative le 15 septembre. Pour obtenir l'abrogation de la loi travail et conquérir de nouvelles garanties et protections collectives. Donc il n'y a pas encore de date de lieu de rendez-vous à Lyon, mais ça ne sera pas tardé.
Il y a une date, hein, c'est quand même.
Il n'y a pas d'heure. C'est le 15. Pas d'heure. Il n'y a pas de rendez-vous.
Jeudi 15 septembre.
Vous le saurez au plus vite. Restez connectés sur Rébellion et sur Radio Canu.
Et restez dans la rue, début septembre.
Et ouais.
On reste dans
surtout
la rue.
Restez dans la rue.
On garde la motive et on panique pas, quoi.
On nique tout.
On nique tout. Et on vous laisse avec le traditionnel Noise Pollution.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parentales.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Noise Pollution.